Voilà. Donc, comme on a dit ce matin, on va faire un peu différent le culte. C'est bon des fois de changer un peu les façons de faire afin qu'on ne soit pas juste dans une routine, mais qu'on puisse vraiment laisser le Seigneur agir. Pourquoi qu'on veut le faire comme ça ce matin? C'est parce que on va enseigner un peu sur la prière et ensuite on va pouvoir l'expérimenter aussi. Donc, à travers aussi donc le temps de louange prière. Donc durant cet été, on va un peu changer justement un peu la structure, mais le fonctionnement du culte pour que on mette un peu un accent plus sur la prière puisque c'est l'été. On croit que c'est important de restaurer justement, comme le titre le dit, restaurer les fondements posés de la prière. On a pu voir que dans ces derniers temps, du côté de la prière, il y avait eu un certain relâchement, il y avait moins de gens présents dans les différentes activités de prière. Donc, on a besoin de voir que on veut reprendre, peut-être relever, restaurer ce qui a été perdu dans ces derniers temps. Donc, depuis le début de l'année, on a vu ce thème de restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres à travers l'Ésaïe 58. Et on a vu justement la dernière fois, dans les versets 8 à 11 d'Ésaïe 58, les conséquences justement d'une restauration avec le Seigneur. Comment que lorsqu'on fait le jeûne selon Dieu, selon ce que le Seigneur veut, voici ce qui arrive. Donc on voit que la lumière jaillira. Donc un jour nouveau, nous sommes la lumière du monde. Donc le Seigneur nous dit que nous sommes cette lumière du monde. Donc cette lumière va rejaillir. Il y a quelque chose de renouveau qui va venir en nous. Il est parlé aussi que le rétablissement s'opérera bien vite, dans le sens que autant rétablissement peut-être physique, mais spirituel surtout, va se rétablir. Il est parlé de la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Donc on voit comment que la justice de Dieu sera présente autour de nous, que la gloire de l'Éternel va nous précéder, va être à côté de nous pour nous protéger, pour démontrer la bonté de Dieu. Dans le verset 9, on a vu que Dieu va dire, je suis là dans la prière. Et on va le voir tout à l'heure comment que on veut prier, puis on veut prendre ce temps face à face avec Dieu et dire, oui, Dieu va dire, je suis là, Saint-Esprit va dire, je suis là. Il est parlé aussi dans le verset 11, l'Éternel sera ton guide constamment, constamment. Donc, on voit que le Seigneur va être là avec nous et qu'on va pouvoir vraiment ressentir sa présence jour après jour. Ensuite, dans la suite du verset 11, il dit, il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Même dans les lieux les plus déserts, les plus difficiles, il va pourvoir à nos besoins. Donc, tout ça, c'est des promesses que lorsqu'on fait le véritable jeûne devant le Seigneur, voici ce qui va se passer. Et nous avons vu aussi dans les quatre R, dans Ésaïe 58, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les secs placés. Tu seras appelé réparateur des brèches, celui qui restaure les demeures en ruine. Donc on voit les quatre R, on voit le mot rebâtir au début de ce verset, qui veut dire de bâtir de nouveau, ou comme dans cette phrase de rebâtir sur les ruines d'autrefois. Il est parlé aussi de relever, c'est-à-dire de lever de nouveau ce qui a été fondé dans le passé. On a vu que le fondement de l'Église ne repose pas sur les capacités de l'homme ou sur les stratégies humaines, mais le fondement de l'Église repose sur Jésus qui est le chef, qui est le chef du corps de l'Église. Nous voyons aussi le mot réparer, hein, tu seras appelé réparateur des brèches. On a vu comment que tout au long de l'histoire de l'Église, depuis plus de 2000 ans, il y a nombreux brèches, nombreux trous qui ont été faits au sein de l'Église, le corps du Christ, à cause de croyances, à cause de déviations, et qui a créé aussi des difficultés. Dans la suite du verset 12, on voit le mot restaurer, celui qui restaure les demeures en ruine. Dans ce mot, restaurer démontre qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas juste une ou deux personnes qui prient ensemble. Mais on a besoin de voir, de restaurer notre relation premièrement avec Dieu et ensuite avec les autres, de remettre en bon état, de remettre en vigueur, de redonner des forces. Donc ces quatre mots, rebâtir, relever, réparer, restaurer, c'est ce que nous désirons faire maintenant aussi dans cet été, de continuer de restaurer, de relever, de rebâtir. Et on va mettre justement une emphase sur la prière. Mais principalement, prochain dia, sur la prière collective. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de prier seul à la maison. Le Seigneur nous dit, hein, quand tu pries, tu vas dans ta chambre. Mais il est parlé aussi que de la prière ensemble. Et on va voir que on n'a pas besoin, on va pas essayer d'inventer ou de nouvelles formules de prière. On va voir que on a déjà, comme dans les sentiers d'autrefois, on a déjà un fondement qui est posé dans la prière. Donc, regardons un peu, c'est quoi la force de la prière collective, la prière ensemble. Donc, on le voit comme on écrit sur l'écran. Il y a trois, le Seigneur a fait prendre conscience d'une évidence tout simple, trois points. Dans le royaume de l'esprit, tout commence et finit par la prière. On a besoin que notre Église puisse vraiment être baignée par la prière. On va voir que souvent, en tant qu'Église, je crois on a travaillé de ce côté-là, mais on prie selon des fois les besoins, les requêtes. Mais on va voir que la prière, c'est beaucoup plus que cela. C'est elle qui opère tout. Le fait de la prière, c'est cette relation intime, cette conversation avec Dieu. On a besoin de le faire même dans le temps de la célébration, même dans les temps que nous sommes en tant qu'Église réunie. Elle est le véritable code génétique de l'Église, dans le sens qu'elle est la base. Elle est la base. Voilà pourquoi que Jésus va dire, quand il va balayer un peu ou enlever toutes les marchands dans le temple, il dit, vous avez fait une caverne de voleurs, mais ma maison sera appelée une maison de prière, un lieu où on peut prier, un lieu où on peut chercher la face de Dieu, un peu où on peut avoir cette connexion avec Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 41, qui dit, veillez prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On veut tous mieux prier, on veut tous plus prier. Et moi, le premier, mais on ne sait comment que on a des difficultés. On est tellement pris par toutes sortes de situations, par le travail, la famille, que généralement, on coupe généralement dans la prière. Et même aussi en tant qu'Église. Et voilà pourquoi que je crois que ces différents temps de prière que nous avons durant la semaine, soit le soir, le mardi, le samedi, la soirée Impact Prière, on a besoin de les retrouver. Et voilà pourquoi qu'on veut aussi dire, puisqu'on est là dimanche rassemblés, on va profiter de prendre un temps de prière, d'intercession, de contemplation, d'adoration pour le Seigneur. Dieu va voir l'effort que nous mettons pour le rechercher. Si on est prêt à mettre un certain temps, un certain sacrifice, Dieu va nous exaucer. Je vous ai parlé la semaine passée d'un livre que j'avais écrit, que j'avais lu, John Ovicheska, qui dit dans le livre La prière, comment prier ensemble façon Église, dit cela. Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. De la même façon, la prière est fondamentale et vitale. Elle est liée à la fois à notre existence présente et à notre endurance perpétuelle. Prier, c'est respirer. Il n'existe pas de meilleure métaphore de ce que la prière devrait être pour le chrétien. Ce que j'ai compris, c'est que souvent, lorsque nous prions, que ce soit seul ou en église, on prie quand ça va mal ou quand on a des besoins. Et c'est vrai qu'il faut le faire parce que Dieu nous écoute, Dieu veut être proche de nous. Mais nous allons voir que la prière, comme dans l'exemple de la respiration, on a besoin de le faire à chaque jour, à chaque instant de respirer. Aujourd'hui, vous réfléchissez plus qu'il faut respirer. C'est automatique que même pendant la nuit, quand vous n'avez aucune conscience, vous respirez. Donc, ça fait partie comment dire, on pourrait dire du rituel de l'organisation, de la gestion de notre vie. La prière, c'est la même chose. Ça devrait venir inné à chaque instant, en tout moment. Voilà pourquoi il disait prier sans cesse, par toutes sortes d'actions de grâce, de reconnaissance. Donc, on veut voir que la prière est vitale pour notre relation avec notre Seigneur, comme pour la vie, pour le développement de l'Église. Donc, on va apprendre, non pas à avoir juste de grandes prières bien prononcées, mais des prières qui sont ferventes, qui sont simples, mais qui démontrent notre attachement à celui qui est tout pour nous. Prochain dia. Donc, la suite de ce livre, John va dire, là où la prière est présente, elle dit quelque chose, elle parle, elle crie, elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Quand la prière est absente, cela renforce la supposition qu'on va bien sans Dieu. Et c'est vrai que souvent, des fois, on recule la prière dans peut-être à la fin pour quelque temps parce qu'il faut faire la prière parce que on a besoin de le faire, c'est un rituel. Mais la prière a besoin. C'est vrai que lorsqu'on loue le Seigneur, on prie aussi parce qu'on s'adresse à Dieu. Lorsqu'on entend les témoignages, on prie aussi parce qu'on parle aussi au nom de Dieu. La prédication aussi, ce sont toutes des façons comment que on parle à travers la prière. Nous avons besoin de dire à chaque fois que nous nous rassemblons en tant qu'Église que nous avons besoin de Dieu. que c'est vers lui seul que l'on désire se tourner. Voilà pourquoi que la prière en communauté est essentielle. Donc John va continuer en disant, la prière non fréquente enseigne à l'Église que l'on a besoin de Dieu seulement dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas dans toutes. Elle dit à l'Église que l'aide de Dieu n'est nécessaire que de manière intermittente, pas constamment. Et ça, on l'a vu, quand il y a des difficultés, l'Église se tourne dans la prière. Je me rappelle que du temps de la pandémie, hein, en 2020, c'était difficile. Tout le monde, toutes les églises ont commencé des rencontres de prière. C'est vrai que Zoom arrivait, puis c'était une bonne occasion, mais on voit aujourd'hui qu'une grande partie de ces mouvements, ben aujourd'hui, n'existent plus. Donc, quand il y a un besoin, quand il y a des circonstances difficiles, l'église ou les gens, les chrétiens, se mettent à prier plus. John va dire aussi, l'attachement d'une église à la prière est l'un des plus grands facteurs qui détermine son efficacité dans le ministère. Et on parle beaucoup ces temps de la revitalisation de l'Église. Mais pour avoir cette revitalisation, on a besoin avant tout de persévérer dans notre relation avec Dieu. Et comment ça se fait? Une partie se fait à travers la prière, à travers cette connexion avec Dieu. Si on n'est pas connecté à Dieu jour après jour, si on n'est pas connecté à Dieu en tant qu'Église, comment est-ce que nous allons voir comment que l'Église progresse? Comment que nous allons entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire? Alors justement, ce matin, on va mettre en pratique cette prière pour justement restaurer notre relation avec Dieu, l'approfondir, pour vraiment vivre une connexion nouvelle, pour pouvoir dire devant le Seigneur, oui, c'est seulement vers toi que je veux me tourner. Alors, ce que nous allons voir ce matin, prochain dia, c'est la prière d'adoration. Bon, c'est pas un nouveau concept, peut-être que le mot a changé, mais voici ce que justement des personnes disent par rapport à cette façon de prier devant le Seigneur. Donc, l'adoration donc, est la réponse de tout ce que nous sommes à la révélation de tout ce que Dieu est. John Sanders a décrit l'adoration comme « L'adoration consiste à incliner le cœur et l'âme dans un sentiment profond d'humilité et de révérence devant Dieu. » Et on le fait justement lorsqu'on loue le Seigneur, et on va le faire tout à l'heure, lorsqu'on prie, lorsqu'on confesse, lorsqu'on se met à genoux, on adore. On incline notre cœur, notre âme, d'une façon humble pour pouvoir se dire, Seigneur, tu es le seul Seigneur. C'est à toi seul que je veux m'approcher. Donc, la prière d'adoration consiste à chercher la face de Dieu avant sa main. Donc, il y a deux choses différentes. La face de Dieu est l'essence même de ce qu'il est. La main de Dieu est la bénédiction de ce qu'il procure. La face de Dieu représente sa personne et sa présence. La main de Dieu pourvoit nos besoins. Donc, il y a deux choses. On doit chercher la face de Dieu avant sa main, dans le sens qu'on doit chercher Dieu avant tout que de chercher une réponse de Dieu à nos requêtes ou à nos prières. Dire, Seigneur, je viens ce matin dans la prière, non pas simplement juste pour demander mes besoins, mais avant tout pour t'adorer, pour te louer. Je veux chercher ta face, je veux te louer parce que tu es saint. Je veux sanctifier ton nom parce que tu es grand, tu es bon. Et la main de Dieu va agir lorsqu'on s'approche de lui. Avec révérence, avec respect, avec honneur, la main de Dieu va venir nous bénir de différentes manières parce que Dieu est bon. Mais si nous faisons que chercher la main de Dieu, nous risquons de négliger sa face. Voilà pourquoi que lorsqu'on cherche sa face, il va s'ouvrir, il va ouvrir sa main avec joie afin de satisfaire les besoins les plus profonds de notre cœur. Alors, comment le faire? Regardons quelques points importants. L'idée de la face de Dieu est l'un des thèmes les plus puissants et transformateur de la Bible. De nombreux personnages de la Bible ont vécu dans leur existence en s'accordant que très peu d'importance au moment de tête à tête avec Dieu. Mais on voit qu'une partie des personnages, dont on va parler comme de Moïse, a compris de l'importance de prendre ce face-à-face avec Dieu. Rappelez-vous que Moïse, jusqu'à 40 ans, pensait qu'il pouvait délivrer le peuple d'Israël par sa propre main, par son intelligence. Voilà pourquoi qu'il a voulu vouloir défendre l'Israélite devant l'Égyptien. Et comme ça n'a pas marché, ben, il a tué comme l'Égyptien. Et à cause de cela, il a dû fuir. Pendant 40 ans, Dieu l'a formé dans le désert pour lui dire, maintenant, j'ai besoin de voir cette face à face avec toi. Et rappelez-vous que dans le désert, lorsqu'il a vu ce buisson ardent, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, parce que tu es dans un lieu saint. Ôte tes souliers, je veux maintenant que tu viennes devant ma face. Ensuite, on voit comment que Moïse, par la puissance de Dieu, a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte. et comment qu'il a passé du temps aussi dans le mont Sinaï avec Dieu, tellement que ça, son visage rayonnait, même que les Israélites ont dit, mets un foulard devant ton visage, parce que tu rayonnes et tu nous montres comment nous sommes infidèles, comment que notre cœur est mauvais devant toi ou est devant l'Éternel. Exode chapitre 33, versets 9 à 11, il est dit, lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait, se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Donc, Dieu avait dit à Moïse, en attendant d'avoir un tabernacle, fais une tente de rencontre, une tente où je vais pouvoir rencontrer les gens. Mais tu vas le sortir du peuple, tu vas sortir du camp, parce que je peux pas être dans le camp où il y a le péché. Et Moïse allait régulièrement, il parlait face à face avec Dieu. Ce que j'ai intéressant dans ce texte, c'est Josué. Josué venait aussi c'était l'assistant, hein. Josué venait donc avec Moïse, et lui, même quand Moïse partait, lui, il restait, tellement il était bien dans cette tente. Et on peut voir comment que Dieu l'a formé à Josué. Rappelez-vous que des années plus tard, c'est lui qui a pris le leadership du peuple pour amener le peuple dans le pays promis. Mais grâce à ces moments aussi où il était en connexion avec Dieu, Dieu a pu le servir pour pouvoir bénir le peuple. Dieu veut nous parler face à face encore aujourd'hui. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'on ne l'entend pas directement par une voix, comme peut-être on parle à un ami, mais Dieu, par son esprit, par l'intelligence, par la parole, comme on va voir par d'autres façons, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Donc la face de Dieu se rapporte vraiment à sa présence intime. Donc les Écritures indiquent clairement que Dieu désire que ses enfants le connaissent et prennent plaisir en lui. Il est prêt et disposé à restaurer son peuple, si ceux-ci cherchent vraiment sa face. On connaît très bien le texte de 2 Chroniques 7, 14, hein, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, voici la condition, voici la bénédiction de la main de Dieu, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Donc, dans la prière d'adoration, on vient dans une attitude d'humilité. On cherche premièrement la face de Dieu pour l'adorer et non pour lui exposer nos besoins. On vient dans une attitude de donner une louange à notre Seigneur, à notre Dieu, pour tout ce qu'il est pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous et qu'il continue de faire. Tous les croyants, chacun de nous, même les enfants aujourd'hui, ont le privilège de contempler Dieu par l'intermédiaire d'une rencontre intime dans la gloire de Dieu, dans sa présence, comme ce matin. Et voilà pourquoi qu'on croit que c'est important aussi, en tant qu'Église, de faire monter cette adoration devant le Seigneur. Alors, prochain dia, un des principes fondamentaux de la prière qui est fondée sur l'adoration est l'engagement à toujours commencer nos prières à partir de la parole de Dieu. C'est un élément clé à respecter. Lorsqu'on prie selon les Écritures, Dieu devient la voix et nous, on vient l'oreille. Dieu, à son tour, peut placer en moi. Souvent, des fois, dans nos prières, on prie, puis on fait un monologue, on prie, on prie, on prie, puis on ne prend pas le temps d'écouter. Mais lorsque justement on ouvre la parole de Dieu, lorsqu'on lit des textes bibliques dans les prières d'adoration, on entend Dieu nous parler. Et après, à la réponse de ce texte, on peut le louer mieux, on peut encore mieux dire, Seigneur, ben voici la vérité que tu donnes, voici la promesse que tu donnes, voici ce que tu me dis de faire. Et je veux le faire maintenant à travers la prière. Donc ce matin, on ne va pas inventer une nouvelle façon de prier ou une nouvelle prière. On va simplement aller dans les chemins d'autrefois, c'est-à-dire dans ce qui a déjà existé. On veut relever les fondements établis dans la prière. Et comment est-ce qu'on va le faire, le prochain dia? On va le faire à travers la prière Notre Père. Dans tout le récit des évangiles, on voit à une seule place où les disciples vont demander à Jésus de leur enseigner quelque chose. Jésus ne va pas leur enseigner de comment guérir les malades, de comment faire le ministère, de comment développer l'Église. Non, il va le faire pour la prière. Regardez Luc chapitre 11, verset 1. Il est dit, un jour Jésus priait en certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. Aujourd'hui, lorsque vous devenez membre d'une Église, lorsque vous vous convertissez, Personne dans l'église où le pasteur va dire, ben, avant d'être membre, on va te faire encore une formation de comment prier. C'est vrai qu'on regarde comment prier par rapport aux autres. Et des fois, au début, on est impressionné. Moi, je me rappelle que j'étais impressionné par ces belles prières bien prononcées. Et je n'osais pas prier parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis par rapport à ces personnes? Donc, on regarde, mais malheureusement, des fois, on prend des mauvais plis. Et justement, on doit des fois peut-être désapprendre à prier pour prier selon Dieu, prier selon la parole, prier selon l'adoration, devant la contemplation, non pas seulement juste devant les requêtes, non pas seulement juste par rapport à nos besoins. Donc, la première chose qu'on voit, ouvrons notre Bible, on va voir la prière dans Matthieu chapitre 6. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. On voit que la première phrase de la prière que Jésus va enseigner à ses disciples, il dit Notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas parlé de mon Père. Donc, il veut dire que notre Père, c'est une relation entre Dieu et nous, mais c'est aussi une relation les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que cette prière, c'est vrai qu'elle peut être prononcée pour seul quand on est à la maison, mais elle est aussi prononcée en tant qu'Église. Et c'est vrai que depuis pendant des siècles, généralement, à chaque dimanche, on récitait cette prière. Hein? Même les non-chrétiens, généralement, connaissent cette prière parce que c'est un rituel. Mais à force de faire un rituel, on ne sait plus très bien qu'est-ce que ça veut dire, cette prière. Notre Père veut dire que nous rappelle que nous sommes à la fois enfants de Dieu, frères et sœurs les uns les autres. Et on le voit dans la prière. Il dit Notre Père. Puis au verset 11, donne-nous. Au verset 12, pardonne-nous. Verset 13, délivre-nous. Donc il parle toujours en nous. Donc il nous dit qu'il nous inclut tous ensemble. La prière commence par le fait de s'ouvrir, pas simplement à une relation, mais aux relations. On a l'habitude de considérer justement la prière comme une relation personnelle, individuelle, mais elle est bien plus que cela. Voilà pourquoi que c'est important de prier ensemble en tant qu'Église. Donc ensuite, prochain dia, on voit que il dit qui est aux cieux, qui est aux cieux. Comprendre la puissance de Dieu. Quand les auteurs bibliques parlent du ciel, elle ne fait pas simplement référence à un lieu, mais aussi à une affirmation de puissance. Lorsque nous invoquons, on n'invoque pas un Dieu terrestre, mais le Dieu du ciel et de la terre. On demande la présence de Dieu, on proclame la gloire et la puissance de Dieu. Donc, ces six premiers mots nous invitent, notre Père qui est aux cieux, à prier parce qu'il nous enseigne que Dieu a autant de compassion que de pouvoir. Il peut tout faire. Tozer va dire. Il va dire, la prière unit Dieu et la personne qui prie. Et elle dit, Dieu est omnipotent. Et celui qui prie est omnipotent pendant ce moment parce qu'il est en contact avec l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on prie notre Père qui est aux cieux, on parle de la puissance de Dieu. Mais à travers cette prière, on a la puissance de Dieu, on a l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on invoque Dieu par rapport à tout ce qui va se passer par rapport à la prière ensuite, on invoque la puissance de Dieu. Hein? Pardonne-nous nos offenses, donne-nous nos besoins jour après jour, la nourriture. On demande que Dieu intervienne. Mais on demande cette puissance de Dieu parce que nous adressons au Dieu du ciel et de la terre. Lui seul peut nous donner cette puissance. Puis il est parlé, prochain dia, que ton nom soit sanctifié, qui est relié à l'honneur de Dieu. La gloire de Dieu est venue dans le monde en la personne de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Signifie donc que nous prions pour que chacun réponde à Jésus de manière appropriée. Et ce matin, nous allons mettre une emphase dans nos prières justement sur la sainteté de Dieu. Comment nous devons prier avec respect, avec révérence, louer notre Seigneur? Comment nous devons remercier pour sa sainteté, pour l'opportunité que nous avons en tant qu'humains, nous qui sommes pécheurs, de venir dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu? Voilà pourquoi que la prière commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, dans la phrase suivante, que ton règne vienne. Une prière pour que le succès de l'Évangile dans le monde. On sait que l'Évangile veut nous transformer. Donc nous prions pour que la reine de Dieu s'étende par l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. On demande que Dieu agisse en nous et autour de nous, afin que son royaume s'établisse dans notre cœur, dans notre vie quotidienne, dans tous les aspects de notre personne, afin que notre vie rayonne de Jésus, afin que l'Église rayonne de Jésus. Ensuite, la phrase, que ta volonté soit faite. On a hâte de voir Dieu agir ici sur terre, comme il règne déjà dans le ciel. Nous ne voulons pas que les gens se soumettent à contre-cœur au règne de Dieu. On veut que les gens se soumettent joyeusement parce qu'ils sont convaincus que Dieu est bon. Donc, lorsqu'on prie que ta volonté soit faite, ça veut dire que nous devons nous soumettre justement à cette volonté de Dieu, de se conformer à elle, de la proclamer autour de nous. Voilà pourquoi qu'on veut encore proclamer encore ce matin que ta volonté soit faite aussi sur l'église de Saint-Henri, dans ce que tu nous demandes d'être, de faire. Donc, pour terminer, prochain dia, donc, on va prendre maintenant un temps de louange et d'adoration. Expérimenter cette prière d'adoration, de venir devant le trône céleste, de chercher la face de Dieu, de sanctifier le nom de notre Seigneur qui nous permet, nous pécheurs, de se tenir devant lui. Alors nous désirons qu'à travers les chants, nous puissions prendre des temps de prière. On peut le faire à haute voix comme dans notre cœur. On va le faire peut-être tous ensemble. On va pas forcément attendre que les gens prient. On va simplement louer le nom du Seigneur. Si vous sentez à l'aise, on a des tapis, si vous voulez vous mettre à genoux, si vous voulez confesser, si vous avez besoin de s'humilier, faites-le, faites-le. Nous allons voir que nous désirons aussi prier par la parole de Dieu. Donc vous pouvez partager des versets qui parlent de cette sainteté de Dieu, qui parlent de cet honneur à Dieu qui lui est dû. Ce n'est pas le temps d'expliquer le verset, simplement vous lisez le verset et laissons le Saint-Esprit nous parler. On veut laisser dans ce temps de louange, de prière, laisser l'Esprit de Dieu conduire. On ne veut pas que ce soit ni moi, ni le groupe de louange qui conduisent le temps. On veut que ce soit le Seigneur. On veut laisser dire, Seigneur, maintenant, on est devant toi pour te louer, t'adorer. On ne vient pas avec un rituel, on ne vient pas, mais c'est vrai qu'on a choisi quelques chants pour nous inspirer, pour nous préparer, mais on veut te laisser à toi. On veut laisser à toi ce moment d'adoration. On va pas beaucoup parler durant de ce temps de louange parce qu'on veut laisser l'Esprit de Dieu nous guider. On veut laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Même s'il y a des temps de silence prolongé, c'est pas grave. C'est bon aussi parce que dans ces temps-là, l'Esprit de Dieu peut nous parler. Donc, des fois, dans le brouhaha de la louange, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Mais dans le silence, Dieu parle. Vous pouvez peut-être un moment prendre justement un texte biblique. Si peut-être, c'est vrai que certaines personnes sont plus à l'aise de partager des textes, mais aujourd'hui, on a des applications dans le cellulaire où on a des versets du jour, où on a des versets clés. On a aussi des fois dans nos Bibles, au début de la Bible, des différentes références de différents versets importants sur la louange, sur l'adoration, sur la contemplation, etc. Vous pouvez prendre de ces textes. Donc, ne vous gênez pas. Même les enfants ou les jeunes, vous pouvez le dire. On n'est pas là pour montrer qu'on a plus de connaissances d'autres. On veut dire, Seigneur, ce matin, je veux mettre ce temps de prière devant toi. Par ma louange, par ma bouche, par les chants, mais aussi par ma voix, par ton écoute, par ma confession, par mon humilité. Si nous le recherchons de tout notre cœur, si nous recherchons sa face, alors Dieu va agir. Et j'aimerais, et je crois que ce matin, Dieu va agir. Dieu va agir, Dieu va guérir des choses dans notre cœur. Dieu va nous montrer des choses pour notre Église, pour chacun de nous. Laissons l'Esprit de Dieu travailler afin que cette prière ce matin puisse être une prière d'adoration. Dire Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes imperfections, avec mes manquements, mais je viens avec un cœur ouvert, repentant. Je confesse mes fautes, je confesse mes manquements et j'ai besoin d'une touche spéciale de toi. Et en tant qu'Église, on prie les uns pour les autres pour justement que chacun de nous, là où nous sommes dans notre vie, là où nous sommes peut-être dans nos situations difficiles, là où nous sommes dans notre cheminement, dire Seigneur, je veux bénir mon frère et ma sœur pour qu'elles puissent avancer plus loin. Je veux bénir cette Église pour qu'elle puisse être une lumière dans ce monde. Je veux que cette lumière jaillisse. Seigneur, on te remercie pour ta présence qui est déjà là. Même avant que nous avons franchi cette salle, tu étais déjà là. C'est ton lieu de prière. C'est une maison de prière que nous voulons, Seigneur, adresser ce matin à toi. On vient peut-être avec nos façons de faire, mais Seigneur, ce matin, on veut simplement que tu nous touches. On veut simplement te laisser guider ce moment. Que ce soit pour nous personnellement dans les prières, peut-être dans les paroles que tu veux nous donner à travers ton écriture, à travers les chants de louange, à travers des prières haute voix. Nous voulons simplement dire comment que tu es grand. Comment que tu es saint, comment que nous voulons sanctifier ton nom, comment que nous voulons que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Oui, Seigneur, on veut adresser cette humble prière que tu nous as enseignée et on veut, Seigneur, la mettre en pratique ce matin dans ces deux premiers versets qu'on a regardés. Alors utilise chacun de nous, utilise le groupe de louanges, utilise chacun de nous pour permettre ce chant d'adoration. Montre-nous aussi à travers ta parole ce que tu veux nous dire. Permets que tu nous donnes des paroles, des versets que nous pouvons exprimer à haute voix pour édifier les personnes, pour nous donner encore plus cette adoration à notre Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci. Merci.
Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3, il dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà que ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrons la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce et tes bénédictions que tu nous donnes jour après jour. Oui, Seigneur, on veut, Seigneur, à la fin de ce culte, Seigneur, continuer de t'adorer, te louer, Seigneur, demander encore que cette grâce, cette bénédiction, Seigneur, repose sur nous aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour, et que nous puissions continuer de professer ton nom seul, que nous soyons continuons, Seigneur, d'être sanctifiés par ton nom. Alors, merci pour tout ce que tu fais, et Seigneur, que vraiment cette grâce, cette bénédiction, Seigneur, soit sur nous pour ton son nom, pour ta gloire seule. Amen.